Merci à David et à nos amis musiciens de nous avoir conduits dans ce moment de prière, de louange, de réflexion, ce moment profond. Et nous comprenons que si nous célébrons tant de choses au sujet de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, de l'amour de Dieu, si nous sommes tellement conscients de ce que le Saint-Esprit a fait dans notre vie, eh bien, ça nous impose certaines obligations dans la vie. Ce que nous avons vécu jusqu'ici ce matin, c'est lundi matin aussi que ça se vit d'une autre manière, mais ça se vit quand même réellement. Vendredi soir, l'église d'Esby m'a demandé de donner une conférence avec comme titre « Un regard chrétien sur l'immigration ». Et vous pouvez imaginer que j'ai tremblé parce que c'est un sujet compliqué. Mais bon, je suis moi-même un immigré. La naturalisation ne change rien à cela. Je suis un immigré, mais je ne suis pas un étranger, je ne le suis plus en tout cas. Quand je vais au bureau de vote, je dois raisonner en citoyen. Et puisque je veux être un disciple de Jésus-Christ et mettre en pratique ce que lui-même enseigne, je dois réfléchir à ces questions-là. Lors d'une conférence, j'ai touché à des aspects politiques, économiques, historiques, des statistiques, toutes sortes de choses qui n'ont pas forcément leur place dans une prédication. Mais pour finir, je me suis dit que regarder avec vous certains aspects, ce que la Bible en dit, ça fait partie du job d'un prédicateur. Et je vais lire en introduction juste un verset dans l'évangile de Matthieu, où Jésus s'exprime au sujet de la foi d'un officier romain. Il faut imaginer que nous sommes dans un contexte juif de l'époque, les Romains sont des occupants, et cet officier romain a exprimé en Jésus une foi absolument exemplaire. Et à ce sujet-là, Jésus a dit, Matthieu 8, verset 11, « Beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. » Je vous rassure, ce verset ne parle pas seulement des Bretons, ceux qui viennent de l'Orient et de l'Occident, ça parle de ceux qui viennent du monde entier pour prendre place autour de la même table. Un mot sur l'actualité. Il y a eu les Jeux Olympiques. Et cela fait que nos journaux français, on peut parler de ce qui s'est passé en Angleterre à peu près à la même époque. Le 29 juillet à Southport, près de Liverpool, un jeune de 17 ans a tué au couteau trois petites filles, 7, 8, 9 ans. Il a blessé 8 autres petites filles et il a blessé 2 adultes. Et aussitôt, les réseaux sociaux se sont enflammés, affirmant que le meurtrier était un immigré illégal et un musulman. Suite à quoi, des foules sont descendues sur Southport, puis sur de nombreuses autres grandes villes, pour incendier les magasins, briser les portes et les fenêtres des maisons particulières, brûler des voitures et s'attaquer aux mosquées. Et le tout avec des cris du genre « Stop à l'immigration, l'Angleterre est à nous, immigrez dehors, arrêtez les bateaux » et ainsi de suite. Des émeutes qui ont duré une semaine. Or, le jeune assassin n'était pas musulman. Il est né en Angleterre, donc ce n'était pas un immigré. Ses parents étaient rwandais, chrétiens, impliqués comme lui dans leur église locale. Mais la colère de la population a explosé avant que les contre-manifestations ne disent « stop au racisme ». La police et la justice sont intervenues avec une grande fermeté, des centaines d'arrestations, l'exploitation des images de vidéosurveillance, des comparutions immédiates, des peines de prison allant jusqu'à 3 ans. Même le roi s'est prononcé sur le sujet, un fait rarissime, et cela montre l'importance de la crise. Les commentateurs, bien sûr, français, ont relevé différentes choses et une émission à la télévision a fait ressortir 3 éléments que vous voyez affichés à l'écran. le sentiment anti-immigration prend de plus en plus d'ampleur en Europe. Bah, c'est un fait. Le système judiciaire français ne pourrait sans doute pas faire comme en Angleterre, avec une telle force, une telle rapidité. Et je crois que c'est vrai aussi. La répression a stoppé les émeutes, mais n'a pas réglé le problème de fond. Et là, je suis dit, oui, d'accord, la répression a stoppé les émeutes, la répression et les contre-manifestations ont stoppé les émeutes, n'a pas réglé le problème de fond. Oui, c'est vrai, certainement, mais quel est le problème de fond? Et c'est là que le commentateur français était dans une certaine ambiguïté. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a beaucoup de problèmes de fond autour de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est l'immigration, tout simplement, en tant que telle? Est-ce que c'est la souffrance économique de certaines régions d'Angleterre? Est-ce que l'inadéquation des lois? Est-ce plutôt des réseaux criminels? Il y en a. Est-ce la peur de la différence? Malheur à vous si vous êtes musulman, hindou, si vous n'êtes pas blond aux cheveux bleus. Est-ce l'échec de l'intégration, l'échec de l'école? Est-ce le racisme? Est-ce l'islam qui est le problème de fond? Non, ils se sont attaqués aux hindous aussi. Et là, je me suis dit que pour les commentateurs, le sous-entendu était probablement, tout simplement, le problème, c'est l'immigration, point barre. Parce qu'ils parlent peu de la haine, du racisme, de la nécessaire acceptation de la différence de couleur de peau ou de religion. On ne parle pas de cet idéal d'une Angleterre pure, blanche, chrétienne. Pas un mot sur le fait que depuis des années, les Anglais sont abreuvés de discours xénophobes. Les malheurs de l'Angleterre seraient la faute à Bruxelles, aux Bulgares, aux Lituaniens, aux musulmans, aux hindous. Tout un discours politique depuis des années. Et donc, sans les immigrés, tout irait bien. Le problème de fond, c'est ça. Bon, en France, avant, on disait ça des Juifs. On disait ça des Italiens. Des Polonais. Et du temps de Louis XIV, si vous étiez protestant, on disait cela de vous. Vous étiez une menace pour le roi, pour la loi, vous étiez une menace pour la vraie foi, et votre sort, c'était les galères, si vous avez un peu de chance, la mort pour beaucoup. Et ça, c'est même sans parler de la traite négrière, et tout ce que cela relève comme mépris, comme intolérance. Oui, l'intolérance fait partie de l'histoire de la France. Mais il y a autre chose. Un Français sur quatre a un grand-parent né à l'étranger. Et ce mot de français, il vient d'où? Le mot même, France-Français. Bien, ça vient des Francs, qui étaient des Germains. Nous portons un nom germanique. Ça, c'est lointain, je suis d'accord. Les Bretons, ben, ils ne sont pas originaires d'Armorique. Ils viennent de la grande île en face, que nous appelons aujourd'hui la Grande-Bretagne, et ils ont été chassés de leur terre par mes ancêtres à moi, qui sont des Angles et des Saxons. En étant plus récent, nous avons eu un président qui s'appelait Nicolas Sarkozy, d'origine hongroise. Et tout le monde aime Jean-Jacques Goldman, fils d'immigrés juifs polonais. Ces derniers temps, les Jeux Olympiques, nos médaillés français avaient des noms africains ou nord-africains. Bon, Léon Marchand, ça, ça va, il passe. Mais Johann Benjamin Gaba, Anastasia Kirpichnikova, Sofiane Oumia, Clarisse Agbegnenou, bah, on les a fêtés aussi, nos médaillés français. Et donc, tout en disant que l'intolérance fait partie de notre histoire, on peut dire aussi que le brassage des populations fait partie aussi de notre histoire. Et on est ainsi dans la Bible. Je pense surtout à Abraham, mais beaucoup d'autres exemples que je vais vous donner. Abraham, Il est né dans le sud de ce qui est aujourd'hui l'Irak. Dieu lui dit, va, quitte ton pays. Il est monté avec sa famille vers le nord, puis vers la Syrie, puis il est descendu pour passer une bonne partie de sa vie en Canaan, entre le Jourdain et la Méditerranée. Toute sa vie, il vivait en nomade, comme un migrant, ne possédant en propre qu'un champ, un champ pour enterrer ses morts. Et la Bible dit que comme Abraham, les chrétiens sont étrangers et voyageurs sur la terre. C'était le thème de certaines prédications ces derniers temps. Donc les descendants d'Abraham ont été poussés par la famine à s'installer en Égypte. Et c'était des migrants économiques, on les a bien accueillis. Au fil des générations pourtant, les Égyptiens ont fini par penser qu'ils étaient trop nombreux et les Israélites ont dû s'enfuir. C'était l'exode vers la fameuse terre promise. Ils l'ont conquise sous la conquête de Josué. Pour être en paix, ben non. Les peuples voisins convoitaient les mêmes terres. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les Assyriens ont déporté une partie de la population. D'autres peuples vaincus les ont remplacés. Au 6e siècle, les Babyloniens ont fait pareil. L'Égypte a été une terre d'asile pour beaucoup. Les Juifs ont essaimé partout et jusqu'à Rome. Et plus près de nous encore, Jésus, enfin, a fui la mort certaine pour raisons politiques en allant avec ses parents en Égypte. On peut dire que l'Ancien Testament est rempli d'exemples de migration économique, politique, de déportation, d'exil forcé, de brassage plus ou moins consenti de la population. Depuis la venue de Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qui changent. Et notamment, on ne va plus parler d'un peuple élu, une nation, physiquement une nation, appelée à être une lumière pour les autres nations. Cela change énormément de choses. L'Église est issue de toutes les nations. L'Église ne revendique aucune terre, ou elle ne devrait pas. Ça, c'est un autre problème. Mais pour ce matin, j'aimerais simplement vous faire reconnaître que les migrations et l'immigration, sortir et arriver, les deux se trouvent partout dans la Bible. Et du coup, la question du rapport à l'étranger va se poser. Quel rapport envisager vis-à-vis de l'étranger? Et je trouve qu'il y a en fait trois cas de figure que vous voyez à l'écran. Un cas de figure, l'étranger un danger, parfois un grave danger, l'étranger un ennemi. Ou alors, c'est peut-être un allié, un ami. Ou alors encore, cela peut être une personne vulnérable à protéger au même titre que les orphelins et les veuves. Les trois cas de figure. Le danger. Eh bien là, c'est des étrangers qui viennent attaquer Israël du dehors pour imposer leurs lois, confisquer des terres, exiger des impôts et réduire les Israélites en esclavage. Quels étrangers? Les Philistins, les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Grecs à partir d'Alexandre le Grand, les Romains. Le territoire des Israélites est menacé par des invasions. Et l'indépendance des Israélites est menacée par la montée de grands empires. Nous voyons toujours ça de nos jours. Mais l'identité spirituelle d'Israël peut être menacée de l'intérieur par l'attrait de divinités païennes étrangères, par des cultes païens idolâtres. Et là, la menace vient de personnes qui habitent sur la terre d'Israël et qui influencent les Israélites par leurs croyances et leurs coutumes. Et grâce à cette influence, à cause de cette influence, les Israélites vont adorer la lune et les étoiles. Ils vont pratiquer, installer dans les temples une forme de prostitution avec des hommes et des femmes, prostitution destinée à favoriser la fertilité des sols et des bêtes et des humains. Ils vont abandonner leur héritage pour certains d'entre eux pour s'aligner sur la civilisation grecque et romaine. Si donc les étrangers menacent l'intégrité d'Israël de l'extérieur, il fallait les combattre militairement. Et si la menace venait du dedans, alors c'est plutôt par la loi qu'on essaye de contrer cette menace. Interdiction de mariage mixte, démolition des lieux de culte païens, excommunication de la synagogue du temps de Jésus, interdiction de brassage social. Voilà donc, premier cas de figure, l'étranger, une menace. Deuxième cas de figure, l'étranger, un ami, un allié, ou même un converti. David a mis sa famille à l'abri quand il a été persécuté par Saül. Où ? Dans un pays voisin, à Moab, chez le roi de Moab. Devenu roi, David a eu une garde personnelle composée de Crétois et de Philistins. Tout à fait étonnant. Des alliés, des amis. Salomon a eu recours à des ouvriers tyriens pour construire le temple. Et en temps de guerre avec des voisins du nord, beaucoup d'Israélites ont trouvé refuge en Égypte. On peut trouver donc des exemples de l'étranger qui compte comme un ami, comme un allié, comme un soutien. Et certains étrangers ont reconnu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob comme leur Dieu. L'un des exemples les plus célèbres, Rahab de Jéricho, ancêtre de Jésus-Christ. Ruth de Moab, ancêtre de Jésus-Christ. Jérémie, quand il était persécuté, avait un défenseur éthiopien à la cour qui le défendait. Et puis un autre exemple célèbre, Naaman, le général syrien. Donc, l'étranger n'est pas que l'ennemi. Il est aussi, et ça dépend des circonstances et des temps, l'ami ou même le converti. Mais ce qui me frappe le plus dans le contexte général de l'Ancien Testament, c'est les exemples où la loi de Moïse incite les Israélites à protéger les étrangers qui vivent au milieu parce qu'ils sont vulnérables. Ce qui frappe pour moi, ce ne sont pas des alliances utiles ou des conversions au compte-goutte. C'est justement ces versets qu'on va afficher maintenant dans la loi de Moïse. Trois exemples. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étranger en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. De nombreux versets disent ce genre de choses. Ou alors, tu ne fausseras pas le cours de la justice au détriment d'un immigré, ni de l'orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. Ici, c'est l'étranger qui est mis sur le même plan de vulnérabilité que l'orphelin. Et le troisième verset qui s'affiche, « Si ton prochain qui vit de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide, même s'il est étranger ou immigré, afin qu'il survive à côté de toi. » C'est quand même, dans la loi de Moïse, quelque chose d'extrêmement frappant. Et on peut ajouter à ces citations directes, j'en ai une douzaine, on peut citer deux autres lois. La loi sur la dîme de la troisième année. C'est pour qui cette dîme ? C'est pour les Lévites, les immigrés, les orphelins, les veuves. Des personnes vulnérables. Les Lévites qui n'ont pas de revenus en propre parce qu'ils n'ont pas de terre. Les orphelins et les veuves qui n'ont pas de soutien familial. Et au milieu d'eux, les Lévites, les immigrés, les orphelins et les veuves. La dîme de la troisième année. C'est l'ancêtre de l'aide sociale peut-être. Ou alors une autre loi qui interdit de renvoyer chez son maître un esclave étranger en fuite. Il est interdit de le renvoyer vers son maître. Alors, dans toute l'histoire de l'esclavage, c'est unique. C'est unique. Quand Onésime s'est converti dans la prison avec Paul, tôt ou tard, il devait retourner à son maître. Paul a probablement couru un certain risque en le protégeant un temps. Le Code Noir, Colbert, l'esclavage moderne, pareil, un esclave en fuite, tu le renvoies. L'étranger, l'esclave étranger en fuite, les Israélites ne devaient pas le renvoyer. Donc c'est très frappant de trouver cela dans le contexte d'un peuple qu'on imagine assez fermé sur les autres. Très frappant. Qu'est-ce qui change avec la nouvelle alliance, avec l'Église, avec la Pentecôte? Eh bien, l'Église est là, composée d'hommes et de femmes de toutes origines, sans avoir de pays à défendre. L'Église ne prélève pas d'impôts. L'Église n'est pas concernée par des lois de l'Ancien Testament qui gèrent la vie d'un État. Mais la loi morale reste. Et Jésus insiste là-dessus. Il cite notamment le Lévitique. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et quand il y a un théologien juif qui va ergoter là-dessus, « Oui, mais c'est qui mon prochain ?» C'est forcément quelqu'un qui me ressemble, c'est quelqu'un de ma famille, voilà. Au moins, il a la même carte d'identité que moi, etc. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. On peut ergoter sur cette loi pour restreindre le champ d'application du mot ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il me ressemble. Jésus donne à ce théologien juif l'exemple d'un étranger, un mécréant, un samaritain. Un samaritain. Donnez un exemple aux bons théologiens juifs. Nous, quand nous lisons cette parabole du bon samaritain, nous devons nous dire, quand nous avons en face de nous un étranger, un musulman, un noir, un blanc, un juif, un entier, un haïtien, nous n'avons absolument pas le choix. Nous devons être pour cet homme, pour cette femme, pour ses enfants, un prochain. Nous devons l'aimer comme nous-mêmes et faire pour lui ce que nous voudrions qu'il fasse pour nous. Ça, c'est l'ensemble de la loi des prophètes, dit Jésus. Je veux bien, il y a une différence entre l'orientation de notre vie personnelle et la gestion d'un pays. Il y a une différence entre l'éthique personnelle et la politique. Et pitié pour les politiques, ils doivent souvent gérer ce qui est ingérable. Mais notre attitude personnelle va se baser sur l'enseignement de Jésus. Nous avons à être un bon samaritain pour notre prochain. Alors je vous saute sur la Convention de Genève, sur d'autres éléments plus historiques, pour aborder quand même un problème particulier. Qu'est-ce qu'on va dire alors de la présence de l'islam en France ? Et on entend souvent dire que les musulmans menacent notre identité. Là, il y a un problème parce qu'il n'y a pas de religion reconnue en France. La loi de 1905 y a mis fin. Et heureusement pour nous autres protestants d'ailleurs. Il n'y a pas de religion reconnue en France. Ça, c'était pour Louis XIV et pour ses successeurs. Mais il n'y a pas de bonne religion maintenant. Il y a effectivement un héritage chrétien, mais les faiseurs d'opinion s'en moquent. Vous avez vu ça dernièrement. Les faiseurs d'opinion s'en moquent de cet héritage chrétien et la France a refusé que l'héritage chrétien figure dans les textes fondateurs de l'Europe. Donc les musulmans ont parfaitement le droit de pratiquer leur religion, de faire des adeptes, de construire des mosquées et de changer de religion s'ils veulent. Il n'y a aucune base dans la France laïque pour désigner les musulmans dans leur ensemble comme des méchants à combattre. Par rapport à l'annonce de l'Évangile, quand même, il y a des choses à contrer, à contester, voilà, c'est un tout autre débat. Mais au niveau de la loi, ils sont sur le même pied d'égalité que nous. Maintenant, il faut aussi reconnaître, il ne faut pas être naïf, il y a dans cette communauté des fondamentalistes, des gens dangereux, des fanatiques. Les attaques contre les mosquées de Montpellier, la synagogue de Montpellier, tout récemment, par exemple. Ou alors ce qui s'est passé à Vénissieux le 16 août. Vous avez peut-être entendu parler de ça. Ce qui s'est passé, c'était une boulangerie. La vendeuse donne à un client musulman une quiche Lorraine avec des lardons, elle pensait que c'était au fromage. Et le gars s'est mis en colère, mais furieusement, elle s'est fait copieusement insulter, alors c'est grave, les paroles on ne dirait pas devant des enfants. Cette femme aurait été attaquée physiquement si le patron n'avait pas été là. Le client a menacé de mettre le feu à la boulangerie. Et du coup, le patron a décidé de ne plus vendre des produits contenant du porc. Plus de sandwich au jambon. Par peur, il a décidé de ne pas porter plainte. Il n'attend que la retraite. Ça aussi, c'est une certaine réalité qui ne touche pas la communauté catholique, les sikhs, les hindous, les bouddhistes. Ça, c'est un fondamentalisme, une violence qui émane d'une fraction de la communauté musulmane. Quelle est la réponse? Ben, stopper l'immigration ne changera rien à cela. Plus personne n'entre, ben, le problème est là depuis des années. Ce qu'il faudrait pour répondre à cela, c'est la loi, la même loi pour tous, sur la haine d'autrui, les insultes, les incivilités, les violences, la même loi pour tous, une insistance sur l'éducation, sur ce qu'on enseigne à l'école, sur l'histoire, les valeurs de la France, de l'Europe, la surveillance des réseaux sociaux, ça on pourrait mieux faire, une exigence à l'égard de certains pays étrangers qui nous envoient des sous-marins, une réponse théologique de la part de musulmans modérés. Il y en a qui n'acceptent pas ce qui se passe là. Il faudrait soutenir ces gens-là. Et il faut, de toute façon, et quel que soit le portrait de la France que nous brosserions, il faut annoncer Jésus à tous, en tout temps et envers tous. Imaginez ce que certains rêvent. Imaginez que la France s'identifie comme un pays chrétien. Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait imposer la bonne religion à tous? Ah non, on ne va pas recommencer comme Louis XIV. Les chrétiens auraient le devoir de respecter la liberté de tous, tous créés à l'image de Dieu, frères et sœurs en Adam, avec la liberté que Dieu leur a accordée, et nous n'allons pas nous opposer à cette liberté-là. L'Église catholique, avec son héritage, l'Inquisition et des choses comme ça, avec Vatican II en 1962 ou 3, a reconnu formellement le droit à l'erreur, le droit à l'existence des autres religions, des autres croyances, ce qui leur a valu des critiques et des scissions avec Mgr Lefebvre. Non, si nous étions au pouvoir, je n'imagine pas certains chrétiens au pouvoir. Bon, ça, c'est autre chose. Si nous étions au pouvoir, nous n'aurions pas, bibliquement parlant, le droit d'enfreindre la liberté des autres, y compris la liberté des hindous et des musulmans. Je vous passe le chapitre sur les lois, les chiffres, toutes sortes de choses comme ça, mais je ne peux pas sauter un aspect de cette question-là. C'est la question du racisme. Un groupe de maisons que j'ai fréquenté se réunissait chez un couple né en Afrique. Parents et enfants sont de nationalité française. La dame travaillait dans un hôpital de la région parisienne. Elle était aide-soignante et elle racontait parfois son vécu. Elle avait manifestement beaucoup d'humanisme dans ce métier d'aide-soignante. Un jour, dans un service de personnes âgées, un homme la voit arriver pour faire sa toilette et il crie de toutes ses forces « Je ne veux pas que cette négresse me touche !» Moi, naturalisé français, aux yeux bleus, aux cheveux clairs, pour ne pas dire clairsemé, je ne rencontre pas ce genre de rejet, ce genre d'insulte. Ça, c'est le racisme au quotidien qui touche toutes sortes de gens bien inséré dans la vie, le racisme ordinaire. Mais la Bible et la loi dit, il y a une seule race humaine, La science et la Bible sont parfaitement d'accord là-dessus. Sur le plan de la science, le génome humain, 99,9%, pareil pour absolument tous. Autant de différences entre, allez, on va dire anglais ou suédois, qu'entre un Congolais et un Suédois. 99,9% du génome est pareil. De petites choses changent, mais il y a des petites choses visibles qui alimentent le rejet racial. Ça, c'est la science. Même génome pour tous les humains. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les hommes naissent égaux en dignité et en droit. Et la Bible, tous créés à l'image de Dieu. Une seule et même humanité. Deux mots pour conclure et ensuite un verset. Un mot de conclusion plutôt historique, un mot de conclusion plutôt biblique. Nous autres protestants, nous sommes issus d'une longue lignée de migrants, de persécutés, d'exilés, de discriminés. Et je trouve qu'il est inconcevable que nous retournions contre d'autres les armes qu'on a utilisées contre nous. Les Juifs à la Pâque disent « Souvenez-vous que vous étiez étrangers en Égypte. Vous étiez étrangers en Égypte. » Attendez, ça fait 3200, 3400 ans. « Souvenez-vous que vous étiez étrangers en Égypte. » Et nous autres protestants, alors, souvenons-nous que nous étions obligés de quitter la France pour trouver refuge en Angleterre, au Danemark, en Suisse, jusqu'en Afrique du Sud. Souvenons-nous aussi des justes parmi les nations qui sont venus en aide aux Juifs. Nous autres protestants, nous sommes un peuple de migrants et solidaires des migrants. Et le deuxième point de la conclusion, c'est un retour sur l'enseignement du Seigneur Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Faites pour les autres ce que vous voudrez qu'ils fassent pour vous. Comme je l'ai dit, les gouvernants doivent gérer l'ingérable. Il y a des choses compliquées. Mais nous, notre attitude personnelle, c'est quoi? Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Ce que vous pouvez faire pour la personne que Dieu place sur votre route, faites-le. Combattez les discours de haine. Refusez les blagues racistes, y compris à l'égard des Belges. Je ne supporte pas des blagues belges. Bon, par rapport aux Écossais, ça passe encore. Parce que mon beau-père écossais en racontait. Voilà. Mais voilà, résistons à ce genre de choses. Demandez à ceux que nous avons élus de simplifier les démarches administratives, de faciliter l'intégration par le travail. Moi, je veux que ces gens-là travaillent, payent les charges, payent les impôts. Explorez les différentes cultures, apprenez à connaître les autres, accueillons les gens qui sont différents de nous et annonçons l'Évangile à tous. Comment tu vis ceci? Eh bien, moi, de mon côté, je vis cela. Aimer en acte, aussi bien qu'en parole, mes amis, nous n'avons pas le choix. C'est un choix difficile. Mais nous n'avons pas le choix. Et nous pouvons nous donner comme objectif de nous approcher de l'idéal que Jésus place devant nous. Ce ne sera pas parfait, mais nous pouvons faire des progrès. Pour le mot de la fin, le verset de la fin, j'aimerais ouvrir avec vous une perspective où le statut de l'immigré sert aux auteurs bibliques comme une sorte de parabole du salut. Ça, c'est la perspective de l'éternité. C'est dans 1 Pierre. « Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez désormais obtenu compassion. Vous qui êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. » Voilà. Nous sommes tous sur cette terre des immigrés parce que notre vraie patrie nous attend. Une parabole du salut, là. Aimons en parole, apparemment, en acte et pas seulement en parole. Je vous invite à prier. Je demande à chacun de se placer devant Dieu, on va prier silencieusement et je tâcherai de trouver une prière de conclusion. Seigneur, qu'il est difficile de voir clair dans le monde qui est le nôtre. Et c'est sûr que des fois nous allons prendre des options qui ne sont pas forcément les meilleures. Nous prions pour que ton esprit nous vienne en aide et surtout pour que nous soyons transformés intérieurement en portant les fruits de l'esprit. Je demande que je puisse savoir comment mettre en pratique ce que tu enseignes et je prie cela pour mes frères et sœurs. Aide-nous à être pour ceux qui croisent notre chemin comme ce bon samaritain. Aide-nous à aimer en acte comme en parole. Au nom de Jésus.